Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Au sixième chapitre de la Genèse, la Bible mentionne la présence de géants. Qui sont ces géants? De nombreuses personnes pensent qu'ils pourraient descendre des hommes préhistoriques. Cette supposition est erronée puisque l'eau recouvrait la surface de la terre après la révolte des anges. La Bible dit que Dieu se vit dans l'obligation de renouveler la surface de la terre où toute vie avait disparu. Aucun des êtres préhistoriques dont on retrouve les traces n'ont survécu à cette époque. Les géants ne peuvent donc pas être leurs descendants. Alors qui étaient-ils? La Bible nous livre la réponse à cette question. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur fut née, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » L'Éternel laissa donc à l'humanité 120 ans pour se repentir, sans quoi elle sera détruite par les eaux du déluge. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Après le déluge, il sera encore question d'autres géants qui sont appelés Néphilim dans certaines versions. Le sixième chapitre de la Genèse indique que les géants ayant vécu avant le déluge furent conçus par les fils de Dieu et les filles des hommes. Qui étaient ces fils de Dieu? Pouvons-nous supposer que des anges auraient épousé des femmes et qu'à la suite de leur union, des géants seraient nés? Dans la mythologie, nous trouvons des titans, ces géants qui se seraient révoltés contre les dieux. Ce mythe remonte aux Babyloniens. Il inspira des fables, racontant que des relations entre les dieux et les femmes étaient possibles. Moïse écrit que ces géants vivaient sur terre, bien avant le déluge. Ils ne pouvaient être que des descendants d'Adam, comme le confirme le premier chapitre du livre de la Genèse. Au cours de sa longue vie, Adam eut de nombreux descendants, dont probablement les géants. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Mais la Bible révèle qu'il y eut encore d'autres géants après le déluge, comme plusieurs versions le mentionnent. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite. Vous trouverez cela dans la version Osterwald, révisée année 1881. Dans la Synodale, édition 1948, la Bible de Jérusalem, édition 1973, et dans d'autres versions également. De fait, il est encore question de géants ou de Néphilim après le déluge, à l'époque où Moïse envoya les espions dans le pays de Canaan. Néphilim est un mot hébreu, signifiant un tyran, quelqu'un qui est redoutable, un géant. Lisons le rapport que ces espions font à Moïse après leur incursion dans la terre promise. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Il faut remarquer que dans leur rapport, ces éclaireurs décrivent des géants qui, mis à part leur taille, étaient des hommes comme vous et moi. Ils ne pouvaient pas descendre des géants mentionnés avant le déluge, puisque ceux-là sont morts dans les eaux qui recouvrirent toute la terre. La Bible révèle que ces géants qui vivaient dans le pays de Canaan étaient des enfants d'Anak, et elle cite leur nom. Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Shéchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Plus de 40 ans plus tard, lors de la conquête du pays, Caleb, qui avait été un éclaireur fidèle avec Josué, les chassa comme le rapporte le récit biblique, qui révèle ainsi le nom du père d'Anak. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Shéchaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. La race de ces géants finit par s'éteindre. Elle n'existe plus de nos jours. Le dernier d'entre eux, qui habitait la Palestine, à l'est du Jourdain, est Og, roi de Bazan. Selon la Bible, il est le seul survivant de la race des géants. Lisons ce que les Écritures disent de lui. Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit. Un lit de fer n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Ce lit avait donc une longueur approximative de 4,50 mètres et une largeur de 2 mètres. Aujourd'hui, ces géants ont tous disparu. Mais comment avaient-ils fait leur apparition sur Terre? La science a découvert que chaque espèce peut, soudainement, donner naissance à de nouvelles variétés par une loi naturelle qu'on appelle mutation. Dieu a institué des lois dans la nature permettant parfois qu'une espèce puisse donner naissance à une variété distincte, soit par la beauté, comme c'est le cas pour les fleurs, ou pour l'homme lui-même, donnant ainsi naissance à des personnes de haute taille ou à des nains comme les pygmées. Mais qui étaient les fils de Dieu qui s'unirent aux filles des hommes avant le déluge? Lisons un passage dans l'Épître de Pierre. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, Louis VIII, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Les abîmes de ténèbres mentionnés ici sont un éloignement spirituel, une mise à l'écart. Les anges rebelles ont subi ce châtiment avant le déluge lorsqu'ils furent précipités sur la terre. Les anges ont péché lorsqu'ils ont abandonné la terre qui était leur demeure pour se lancer à la conquête du trône de Dieu dans les cieux. J'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer précédemment. Si vous souhaitez recevoir le texte qui traite de ce sujet, il vous suffit de le demander et il vous sera expédié gratuitement. Jude le confirme. Le Seigneur a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu leur avait donné un rôle précis et une tâche importante à accomplir sur la terre, mais dans leur vanité, ils voulurent plus de prestige, et ils ont tout perdu. Au sujet du Christ, l'apôtre Pierre ajoute, « Ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Avant le déluge, Satan et ses démons se sont si bien acquittés de leur tâche que presque toute l'humanité fut incitée par leurs efforts à pécher et à s'engager dans la voie de la perdition. C'est pourquoi l'Éternel est allé prêcher aux esprits, aux anges déchus, en prison. Ces anges désobéissants, rebelles et déchus, avaient lancé une attaque contre le trône de Dieu. Ils étaient désormais confinés sur la terre. Et c'est pendant la construction de l'arche, à l'époque de Noé, que l'Éternel les avertit du châtiment qui les attendait, à cause de leur complicité avec le diable pour dévoyer les habitants de la terre. Les anges sont des êtres spirituels, composés d'esprits, et ils ne peuvent se reproduire à la suite de relations sexuelles, ni par quelque autre moyen. C'est ce que Jésus a confirmé aux Sadducéens lorsqu'ils le questionnèrent sur la femme qui avait eu 7 maris. Parlant de la résurrection, cet événement prodigieux qui verra les hommes et les femmes devenir à leur tour des êtres spirituels, composés d'esprits, il leur dit « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Luc rapporte dans son évangile. Jésus leur répondit « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car, autrement dit de plus, ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. » Marc ajoute « Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. » Les anges ne peuvent s'unir avec des femmes et se reproduire, parce que les anges et les êtres humains sont deux espèces totalement différentes et incompatibles pour une union. L'une est spirituelle, l'autre est physique. Dieu n'a pas créé les anges de manière à ce qu'ils puissent se reproduire avec des êtres humains. Il n'a pas l'intention de les engendrer en tant que fils. Paul écrit « Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et il ajoute « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» J'attire votre attention sur le fait que nulle part dans la Bible, vous ne trouverez la moindre allusion au fait que des anges déchus, c'est-à-dire des démons, peuvent se manifester sous la forme d'un être humain. Ils ne peuvent pas se matérialiser, mais par contre, ils peuvent prendre possession de quelqu'un ou même d'un animal. Le pouvoir de se matérialiser est réservé uniquement aux anges fidèles, comme le furent les deux anges qui accompagnèrent l'Éternel lorsqu'ils se présentèrent tous trois devant Abraham au chêne de Mamré. Si Dieu le permet, je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine.